Cinéma, danse, théâtre, livre, expo.
Culte.news, ça c'est culte.
Bonjour et bienvenue sur la Disculte, un podcast de Culte.news. Alors aujourd'hui, nous sommes accueillis à la Philharmonie Luxembourg, au Grand-Duché du Luxembourg, par Fatima Rougy, qui en est le Press et PR Manager. Avant de commencer les questions, je dois dire que le site est absolument splendide et c'est un chef-d'œuvre architectural par lui-même. Fatima, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais jouer un petit peu les Stéphane Bern, qui, je crois, est d'origine luxembourgeoise.
Tout à fait.
Je n'ai pas fait exprès. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'historique de cet endroit splendide et du pourquoi de la Philharmonie?
Alors, la Philharmonie Luxembourg, c'est un lieu qui a ouvert en 2005, donc qui fête ses 20 ans dans quelques jours.
Ah, c'est marrant.
Parce qu'officiellement, son anniversaire, c'est le 26 juin.
J'arrive à pic.
Et donc, vous arrivez pile au bon moment. Et donc, c'est un lieu qui a ouvert en 2005 et c'est vite devenu l'une des plus grandes salles de concert en Europe.
Oui. Ça fait tout neuf.
C'est tout neuf, oui. Ça fait tout neuf. Et cette philharmonie se trouve en plein cœur du quartier européen du Kirchberg,
oui.
Qui est aussi une place financière. Et le bâtiment a été imaginé par l'architecte français Christian de Porzampac, grand nom,
qui
a reçu notamment le prestigieux prix Pritzker. Et alors, la philharmonie Luxembourg est baignée de lumière en plein milieu du quartier européen du Kirchberg. Donc, c'est un lieu qui a été imaginé pour que les gens de l'extérieur puissent voir son intérieur et pour que les gens de l'intérieur puissent voir l'extérieur.
En fait, il y a une verrière qui fait tout le tour.
Exactement,
du bâtiment.
C'est ça. Et le but, c'est vraiment de montrer l'ouverture du bâtiment et aussi de la volonté d'ouverture du bâtiment.
Et alors, il y a des magnifiques colonnes blanches de partout.
Exactement. Oui, voilà.
Et elles ont une signification, ces colonnes?
Ces colonnes, en fait, sont censées représenter une forêt. Et donc, c'est une forêt de colonnes blanches. Christian de Porzampac a tout réfléchi, donc les colonnes, mais aussi les couleurs des façades. Donc les façades ont toutes une couleur différente, dans des teintes un peu pastelles. Et alors en journée, ça ne se voit pas trop, mais les soirs de spectacle, là où la philharmonie au final vit le plus,
oui.
Les façades, selon la luminosité, changent terriblement de couleur. Donc en fait, elle est blanche, mais elle se pare de couleur selon les heures de la journée. Donc c'est un bâtiment qui est très vivant et qui peut s'admirer sous tous les angles et sous toutes les couleurs. Et surtout, vu qu'elle laisse passer beaucoup de lumière, les jeux d'ombre sont assez hallucinants parce que vraiment, la journée, on peut prendre des clichés très beaux avec très peu de talent pour la photo, oui. Presque, parce qu'en fait, tout... Tout est architecturalement beau et esthétique. Et donc, moi, je m'amuse souvent sur mes pauses déjeuner, dès que je vois une lumière.
Ah, c'est vrai que c'est un cadre de travail qui est pas mal.
C'est ça. Donc, là, voilà, la luminosité et la couleur est quelque chose de très fort dans le bâtiment. C'est, voilà. Et la hauteur et la rondeur aussi du bâtiment lui donnent une certaine douceur.
Bien sûr.
Qui, moi, personnellement, me
Alors,
remplit de joie.
Le site porte un autre nom.
Oui, c'est la salle de concert Grande Duchesse Charlotte.
Et il y a une raison?
Il y a une raison parce qu'elle a fait beaucoup pour la culture au Luxembourg. Et,
d'accord.
Voilà, donc on lui a donné ce nom. Et le musée qui est juste à côté de nous porte le nom du Grand-Duc Jean.
Parfait. Donc... Alors, je crois aussi que la Philharmonie Luxembourg a un rapport avec l'orchestre philharmonique.
Oui.
Puisque c'était au départ l'orchestre de
RTL,
Radio-Télé Luxembourg.
C'est ça. C'est maintenant, depuis 2012, c'est l'orchestre de la Philharmonie Luxembourg.
C'est
donc
ça.
L'orchestre philharmonique du Luxembourg est résident à la Philharmonie Luxembourg.
C'est pas un peu ce qui a poussé la création de ce site, le fait que... la radio ne pouvait plus entretenir le...
Je ne pense pas que c'était la raison principale pour la fondation de la Philharmonie
d'accord.
en elle-même.
Ça a été une
bonne
opportunité.
Mais je pense que c'est quelque chose qui était dans les cartons d'accord. et qui a fait sens très vite. Et au niveau du bâtiment, donc on a plusieurs salles. On a bien évidemment la grande salle, le grand oui. auditorium, qui est réputé pour son acoustique assez exceptionnelle. On peut accueillir environ 1500 personnes.
Alors, j'ai vu que vous avez pris un acousticien de renom. Pour,
c'est ça, monsieur Albert Chou.
Oui.
Voilà. Et oui, il a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'acoustique, beaucoup avec monsieur de Borzampal.
J'imagine.
Donc, oui, voilà. Et on est vraiment très réputé pour ça, pour la musique classique, bien évidemment. Parce que le but, c'est quand même une philharmonie. Donc, le son a été fait pour des concerts philharmoniques et pour de la musique classique. Après, pour les concerts de musique amplifiée, le son va être très différent.
Alors donc, pas de concerts de musique
Si, on a parfois des concerts de musique amplifiée, mais ce n'est pas notre corps de métier.
D'accord.
Voilà. C'est quelque chose qu'on fait aussi beaucoup et qu'on développe au fur et à mesure des
comme à la
des
Philharmonie
années.
De Paris.
Oui, mais vraiment, la pureté de l'acoustique est quand même... personnellement, assez, je la trouve assez hallucinante en configuration
et n'importe
classique.
Où on se trouve dans la salle.
Voilà,
c'est bien ça.
C'est ça. C'est ça. C'est ce qu'on appelle une acoustique de shoebox, de boîte à chaussures. Voilà, le but,
ah oui. D'accord.
Voilà. Et donc, on a aussi la salle de musique de chambre, qui est, comme son nom l'indique, une salle pour la musique de chambre, et un espace découverte qui, lui, est parfait pour des formats un peu plus intimistes, donc comme des récitals ou des concerts destinés au jeune public, ou encore des sessions de yoga, musique classique, ou certains workshops pour participatifs ou pour les écoles ou pour les jeunes publics. Voilà.
Et il y en a un demain, de cours de yoga ?
Malheureusement, non. Et donc, depuis le début, la Philharmonie accueille les plus grands orchestres européens et au-delà, les chefs et solistes du monde entier. Et comme on le disait précédemment, c'est aussi le chez-soi de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg qui est en résidence permanente
Alors,
dans les lieux.
On parlait de la Philharmonie de Paris tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un lien culturel entre les deux philharmonies ou bien elles sont complètement indépendantes ?
Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est... toutes les deux de très belles salles.
Oui.
architecturalement, on est quand même deux belles salles de concert, donc ça, c'est en commun. En plus, récemment, il y a eu un article sur les plus belles philharmonies d'Europe. La Philharmonie de Paris est en première position. Et je crois que nous sommes... non, alors la Philharmonie n'est pas en... Bref, on est dans le même classement des bon. 6 plus belles philharmonies d'Europe. Donc, on est dans ce même classement-là. Les deux salles partagent une ambition commune qui est quand même d'offrir une programmation musicale exigeante, ouverte et internationale. Et ce qui rapproche les deux salles, c'est le fait que le volet éducatif y est très important.
D'accord.
L'éducation à la musique est quelque chose qui est très important dans les deux programmations. Et après, au niveau des liens, la Philharmonie Luxembourg est membre du réseau ECHO, qui est l'organisation européenne des grandes salles de concert. Et la Philharmonie de Paris est également membre de ce réseau.
D'où
donc forcément, on échange beaucoup dans le cadre de ce réseau, et ce qui permet des projets transnationaux. Et on a notamment un cycle qui s'appelle Rising Stars, qui est de ce réseau-là, qui est issu de ce réseau ECHO, qui permet de mettre en lumière des jeunes talents européens qui jouent dans les différentes villes membres de ECHO. Donc, ils vont jouer à Luxembourg, ils vont jouer à Paris, à Vienne, à Amsterdam. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a en commun avec la Philharmonie de Paris. Et puis, en 2012, la Philharmonie Luxembourg et l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg ont fusionné administrativement
oui.
et artistiquement. Un modèle intégré où programmation, marketing, gestion du bâtiment et de l'orchestre sont réunis, donc sous une même structure. Et cette fusion a inspiré les réflexions de la Philharmonie de Paris, parce que l'Orchestre de Paris et l'orchestre en résidence, et joue la plupart de ses concerts ouais. à la Philharmonie de Paris. Donc, en fait, ils se sont beaucoup inspirés de notre modèle et on les a aidés un peu à mettre en place cette fusion que nous, on avait réussi et mise en place quelques années auparavant. Et au-delà de ça, il y a forcément des ensembles et des artistes qui sont programmés à Paris, qui se produisent régulièrement à Luxembourg et vice-versa. Et enfin, l'orchestre de Paris vient se produire parfois régulièrement à la Philharmonie de Luxembourg. Donc voilà le lien qu'il peut avoir avec la Philharmonie de Paris.
Question qui m'intéresse personnellement, est-ce que vous mettez l'accent sur les nouveaux talents au niveau composition, type musique contemporaine.
Oui, on essaye beaucoup. D'accord. On a d'ailleurs un festival dédié aux musiques contemporaines et expérimentales qui s'appelle le festival Rainy Days, qui a lieu tous les ans en novembre. Et donc dans les jours pluvieux, de là le nom Rainy Days. Et là, c'est vraiment un festival dédié aux musiques contemporaines et expérimentales. Donc beaucoup de jeunes compositeurs et de compositeurs locaux, mais aussi internationaux, qui viennent présenter des œuvres très très contemporaines et très expérimentales. Donc on a là par exemple la dernière édition, l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg a fait un concert avec une compositrice qui jouait du papier bulle. Donc c'était vraiment un vrai concert de musique classique accompagné de l'instrument papier bulle.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
C'était honnêtement assez impressionnant. Et on ne se rend pas compte de la capacité musicale du papier bulle. Parce que ce n'est pas juste le... Parce que tout le monde adore faire ça.
Éclater
les bulles. Mais en fait, c'était aussi beaucoup le bruit du papier.
Le frottement.
Le frottement, parce que des fois, il peut couiner un peu. Ouais. Des fois, il peut... Voilà, selon comment on le touche, on le caresse, on le manipule, le son qui va émerger de cet instrument papier bulle est très différent. Et c'était honnêtement très intéressant.
Et alors, est-ce que ça a du succès au niveau du public ?
Pour les Rainy Days, oui. Le Rainy Days a trouvé son public, oui. Il y a vraiment un public qui adore la musique expérimentale,
oui.
qui va aller dans d'autres salles de concert au Luxembourg et qui du coup vient à la Philharmonie, pas forcément au concert de musique classique, mais qui est vraiment habitué du coup à venir... au festival Rainy Days.
Parce que ça, c'est une chose dont j'ai été un peu surpris à la Philharmonie de Paris, c'est que les auteurs contemporains attirent de plus en plus de monde. Il y a les grands maîtres comme Richter, etc., qui font ça le comble, mais on voit aussi pour d'autres compositeurs
un public qui
devient de plus en plus... Ouais. Intéressé et exigeant.
Oui, oui. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que le public qui va venir au Rainy Days, c'est pas forcément un public qui va venir très souvent à la Philharmonie. Et donc c'est bien qu'ils puissent découvrir la Philharmonie différemment, parce que c'est peut-être pas forcément un lieu auquel ils pensent, parce que on a cette image de musique classique, musique symphonique et philharmonique. Et du coup, ils vont plutôt aller dans d'autres salles de concert luxembourgeoises.
Et là, ils vont pouvoir apprécier l'acoustique.
Mais ici, voilà, et l'acoustique est quand même assez exceptionnelle. Donc, du coup, pouvoir vivre de la musique expérimentale dans une salle philharmonique, c'est quand même assez exceptionnel. Et du coup, c'est ce public-là va venir pour quand on va programmer d'autres, parce qu'on ne programme pas de la musique contemporaine et expérimentale que à l'occasion des Rainy Days, on en fait tout au long de l'année,
bien sûr.
Et donc du coup va revenir pour le reste de nos concerts du même type, ou autres d'ailleurs.
Ça m'amène à ma dernière question, j'ai encore plein de questions à vous poser, mais le temps est compté. En fait, quelle est la vision d'avenir au niveau de la Philharmonie? Est-ce que vous avez des nouveaux chants? Vous avez parlé un petit peu de musique amplifiée que vous commencez à accueillir de plus en plus. Est-ce que vous avez d'autres évolutions que vous souhaitez apporter à la Philharmonie du Luxembourg?
Alors, il y a quelque chose
publics, comme le public parisien,
Il y a quelque chose
exemple.
Qui va rester, c'est la grande diversité de la programmation. Parce
D'accord.
que, comme je disais, on fait beaucoup de musique classique. Donc, on a les grandes stars de la musique classique qui viennent. Donc, Lang Lang, Anna Lapoud, Yuja Wang, Martha Argerich. Voilà, tout ça, c'est des grands noms qui vont continuer
que tout le monde connaît.
Mais après, on fait aussi beaucoup de jazz avec des artistes majeurs de la scène internationale. Donc, dans le passé, on a eu Herbie Hancock, Wynton Marsalis qui vient... puis à venir, on a Ibrahim Malouf qui vient, il y a Hiromi, Michael Wolny. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut garder. Et puis, on a toujours eu aussi beaucoup de concerts, j'aime pas trop le terme, mais de musique du monde, qui mettent en avant des traditions musicales moins européennes, on va dire.
Ouais.
Et donc, on a un festival, par exemple, qui s'appelle Atlantico, qui est dédié aux musiques de pays lusophones, parce que le Luxembourg est un pays qui accueille énormément de lusophones.
Oui.
Donc, on a un festival qui a lieu tous les ans en octobre, dédié que aux musiques lusophones. Et là, cette année, il y aura par exemple Mayra Andrade qui viendra dans le cadre de ce festival. Et on a d'autres musiques d'ailleurs qui viennent se produire très régulièrement. Là, il y a Youssou N'Dour qui est déjà venu, il y a Salif Keïta qui était là il y a quelques mois.
Presque de la pop, quoi.
Oui, voilà. Là, on a Camille qui vient pour la prochaine saison avec un chœur masculin sud-africain qui s'appelle Fufuma Love Minus. On a notre grand artiste luxembourgeois Gast Vasling qui se produit régulièrement ici. Et lui, il travaille souvent avec Angélique Kidjo, avec qui ils ont eu un Grammy Awards, d'ailleurs. Donc voilà. Et là, on a la saison prochaine, on a un cycle dédié à l'Inde. Et à cette occasion, il y a Anushka Shankar qui sera là.
Carrément.
Voilà. Donc voilà, les musiques d'ailleurs sont aussi très représentées. Comme je parlais aussi des musiques contemporaines et expérimentales, on en fait aussi énormément avec le festival One Days, comme je disais. Mais il y a aussi d'autres grands noms de la musique contemporaine qui vient. On débute la saison prochaine avec Nick Cave qui vient pour 2 concerts. On a aussi beaucoup de ciné-concerts. Et là, la saison prochaine, on a 3 ciné-concerts de Hitchcock, qui seront accompagnés de l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Et on a beaucoup de spectacles jeunes publics.
Et là,
et
c'est une façon complètement différente de voir le film.
C'est ça.
En ayant
voilà. Et de découvrir la musique classique sous un angle plus cinématographique. Et ça, c'est aussi intéressant.
Et d'ailleurs, les gens ont tendance un petit peu à oublier que. Il y a eu un pont pendant très longtemps aux États-Unis entre la musique classique et le cinéma.
Mmh, voilà. Ouais. Et moi, je trouve souvent que pour les gens qui sont un peu frileux à se baigner dans la musique classique, la musique de film est une bonne porte d'entrée.
Ouais,
et les ciné-concerts sont une merveilleuse porte d'entrée vers la musique classique. Donc moi, c'est ce que je recommande souvent au public neuf de la Philharmonie.
Et ce qui veut dire que finalement, à Philharmonie Luxembourg, on peut écouter toutes sortes de musique,
oui. Et le volet éducation est quand même très très important. En fait, on fait des concerts pour tous les âges dès la naissance, parce qu'il y a des concerts sensoriels pour bébés, il y a des aventures musicales pour les tout petits, il y a des récits en luxembourgeois, en français, en allemand pour les enfants de 4 à 8 ans, des spectacles pour les plus grands, il y a un festival dédié aux familles qui a lieu soit en avril, soit en décembre. Cette année, le thème, c'était le cirque, c'était en avril. Cette année, ce sera en décembre et ce sera autour de Noël, donc dédié à Noël. Il y a des ateliers participatifs, des projets créatifs, des projets avec les écoles, des projets avec des associations. Donc voilà, c'est vraiment c'est très riche et varié. C'est un peu à l'image du Luxembourg aussi, parce que du coup, on a beaucoup de programmation multilingue et qui peut capter aussi plein de communautés différentes. Parce qu'il y a tellement de nationalités qui sont représentées dans ce pays que c'est ça qui est fabuleux, c'est que si on organise par exemple un concert avec un artiste sud-africain, c'est sûr qu'il va y avoir une communauté sud-africaine qui sera représentée. Si on fait un concert du Venezuela, il va y avoir une communauté vénézuélienne. En fait, toutes les communautés sont tellement représentées qu'il va y avoir forcément un petit contingent de ce pays qui va être représenté dans la salle.
Et qui va donner une ambiance particulière.
Et qui va donner une ambiance particulière, exactement. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et aussi le fait de pouvoir proposer des projets dans toutes les langues du pays. Parce que le Luxembourg est un pays francophone, mais qui a 3 langues officielles, donc le luxembourgeois, l'allemand et le français. Donc les spectacles, et donc du coup, certains spectacles pour enfants sont disponibles en luxembourgeois, en allemand et en français. Voilà. Donc ça va rester, c'est l'ossature de la Philharmonie. C'est comme je dis, il y a beaucoup. Après, la direction musicale qui est planifiée pour les années à venir, il y a un changement majeur qui arrive. C'est que le chef d'orchestre actuel, Gustavo Rimeno, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Luxembourg depuis 2015, quitte son poste cet été.
D'accord.
Donc il donne son dernier concert avec l'Orchestre Philharmonique le 5 juillet, un concert en plein air, qui clôture toujours notre saison, dans le parc principal de la ville, le parc municipal,
qui
est à 2 arrêts de tram de la Philharmonie. L'Orchestre Philharmonique se produit tous les ans pour un concert gratuit en plein air. Et donc, ce sera le dernier concert de notre directeur, de notre chef d'orchestre. Et c'est un nouveau, du coup, chapitre qui s'ouvre pour l'Orchestre Philharmonique, parce que pour la première fois de son histoire récente, il va faire une saison entière sans directeur musical.
Sans directeur musical. C'est vous qui allez faire la direction
musicale. Non. On va perdre beaucoup de public si je fais ça. Et parce que le prochain chef d'orchestre titulaire ne prend son poste qu'en octobre 2026.
Ah, c'est dit que vous avez déjà un nom.
où on en a un autre qui s'appelle Martin Reina, qui est à Budapest et qui a 29 ans.
Waouh.
et donc, il commence en octobre 2026, donc pendant
donc
une saison.
Donc, vous prévoyez qu'il reste très longtemps.
Il reste pour 5 pour le premier mandat est un mandat de 5 ans.
D'accord.
Il sera renouvelé ou renouvelable selon les envies de Martine et de la Philharmonie.
Il est donc hongrois.
Il est donc hongrois. Oui, voilà. Et il s'est produit en fait en octobre 2024 avec l'orchestre philharmonique et le courant est très bien passé. Et il y a eu des sondages en interne pour savoir si c'était un candidat qui était possible. Et l'orchestre a dit qu'il voulait vraiment travailler avec lui. Donc, on lui a proposé de prendre la relève de Gustavo. Comme le courant est très bien passé et qu'il est très talentueux, on lui a proposé ce poste qu'il a accepté avec beaucoup d'honneur. Et voilà. Donc, d'ici là, nos musiciens et musiciennes vont vivre une aventure collective inouïe, inédite, un peu...
Sans chef d'orchestre.
Certainement passionnante, parce qu'il va y avoir des chefs d'orchestre qui vont se relayer. Donc, il va y avoir Sir John Eliot Gardiner qui va revenir, Renaud Capuçon, Sokiev, Paavo Järvi, Léopold Hager, Daniel Rustioni, Robin Ticciati et Martin Reina. Même s'il ne commence que en 2026,
il va faire des petites incursions.
Il va venir faire trois concerts la saison prochaine. Voilà. Et donc c'est une dynamique nouvelle. Et l'autre nouveauté, la nouvelle direction musicale, plutôt direction tout court, on va dire, de ce bâtiment qui est déjà bien ouvert, c'est de l'ouvrir encore plus. Et donc je ne sais pas si vous avez remarqué en arrivant, mais il y a des petits
travaux. Oui, voilà. J'ai vu.
Et donc, pourquoi il y a des travaux ? Alors, en fait, juste derrière nous, là, il va y avoir une extension de la philharmonie. La philharmonie va s'agrandir.
D'accord.
Actuellement,
c'est déjà pas tout petit.
Voilà. Et le but, c'est que la programmation se développe de plus en plus.
D'accord.
Et elle prend une direction encore plus vers l'éducatif prend une part importante de notre programmation, ce qui est très important pour nous. Et les projets participatifs aussi prennent beaucoup de place et on veut leur donner encore plus de place. Donc, les travaux sont là et cette nouvelle ère qui normalement devrait ouvrir à l'horizon 2027, donc à la mi-2027, si D'accord. tout se passe bien, mais bon, les travaux, on sait toujours quand ça commence, on ne sait jamais quand ça finit. Donc, on va dire que...
Il n'y a pas qu'en France, alors.
Cette nouvelle aile accueillera un restaurant avec terrasse, un espace lounge, ainsi qu'une salle polyvalente qui sera dédiée au projet éducatif, comme je disais.
Donc finalement, on va pouvoir vivre ici, il ne reste plus que l'hôtel et tout
les hôtels ne sont pas très loin, cela dit, il y en a un juste derrière nous. Et donc, c'est pour les projets éducatifs, les projets associatifs, les workshops, les rencontres, par exemple certaines conférences qu'on peut avoir avant les concerts ou après les concerts, et alors, aussi à des réceptions.
Petit comparatif avec Paris, est-ce que vous faites aussi des expositions ?
Alors, on ne fait pas d'exposition, mais il peut nous arriver d'en faire de manière très anecdotique.
Oui, parce qu'il y a de la place.
Alors, par exemple, pour le festival Atlantico l'année dernière, oui. Donc notre festival dédié aux musiques lusophones, on a eu un concert autour des photos du grand Salgado, oui. qui est malheureusement décédé il y a quelques semaines. Et on a du coup affiché tout le long de la rampe des grands formats de Salgado.
Ah oui,
voilà.
Superbe.
Et là... Petite exclusivité pour vous, dans quelques jours, oui. à l'occasion des 20 ans de la Philharmonie, on inaugure une expo qui va rendre hommage à ces 20 ans de Philharmonie. Donc il y aura une expo photo qui n'est pas que photo, il y aura d'autres petites surprises qui sera aussi affichée comme l'exposition de Salgado. Donc on ne fait pas forcément, c'est pas notre corps de métier, mais de temps en temps, s'il y a un projet qui s'y prête, un concert qui s'y prête et aussi un événement comme les 20 ans de la salle, on va pouvoir faire ça. Voilà.
Bon. Il ne me reste plus qu'à compléter en disant que venir de Paris à Luxembourg, ce n'est pas très compliqué, que ce soit en train ou en voiture, pour assister à des spectacles qui sont quand même assez exceptionnels et dans un environnement qui est absolument magnifique. Fatima, il ne me reste plus qu'à vous remercier énormément pour cette interview et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.